Europe 1. La libre antenne, Sana Blanger.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1 et j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien, vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors ce soir, j'ai choisi le mot absence. Un être qui vous est cher est parti, on vous a dérobé ou vous avez perdu un objet pour lequel vous aviez un attachement très particulier. Votre chat, votre chien, votre animal de compagnie n'est toujours pas revenu. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous gérez l'absence ainsi créée. Avez-vous réussi à oublier ou au contraire, ça obsède vos pensées? Tout le monde dit que le temps atténue la douleur. Qu'en est-il pour vous? Racontez-vous, racontez-nous en nous contactant maintenant au 3921 pour partager vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos peurs. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qui est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 73921 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Cindy et Bastien, fidèles au poste, vous répondront au standard du 3921 et Laurent Pellet réalise l'émission ce soir. À tout de suite.
La Libre Antenne sur Europe 1. Sana Blanger.
Nous démarrons l'émission avec Sylvie. Bonsoir Sylvie. Ah non, c'est Yves. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Oui, bonsoir Yves. Sylvie est la personne qui passera après vous. Bienvenue à la Libre Antenne, Yves.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, ce qui m'arrive, c'est pas d'aujourd'hui. Je me suis dit que j'avais envie d'en parler. Donc voilà, j'étais l'aidant de mon épouse, de la femme qui partageait ma vie. Tout ça s'est passé il y a un petit moment maintenant, puisqu'elle est décédée en 2017. Ma femme est tombée malade 9 ans avant, d'une addiction sévère à l'alcool, de dépression, d'anxiété et de pulsions suicidaires.
Ah, je suis désolée.
Voilà, enfin c'est pour ce qui est de l'absence, j'ai fait mon chemin de deuil. Je ne l'ai pas fait tout seul, ça c'est un message aussi. Après le décès de mon épouse, j'ai su immédiatement qu'il fallait que je témoigne déjà.
Oui.
De tout ça, d'une part, mais aussi que je me fasse accompagner. Et pour ça, je me suis tourné sur Internet, j'ai cherché autour de moi et j'ai trouvé en proximité une association qui travaille dans le Morbihan, où j'habite,
d'accord,
qui s'appelle Échange et Partage Deuil Jeunesse, et qui, à travers des groupes de paroles d'endeuillés, m'a accompagné d'une façon formidable. Pour ce qui est du parcours de deuil. Et puis, en à côté de ça, parce que ce n'était pas, à mon avis, suffisant, j'ai choisi une thérapeute, une psychologue,
d'accord,
et j'ai fait une thérapie pour comprendre ce qui nous était arrivé, ce qui m'était arrivé. Et voilà, et dans cette thérapie, cette personne m'a aidé à me poser les bonnes questions.
Ou
et
trouver,
m'a dit aussi...
On va trouver les bonnes réponses.
Voilà.
Ouais.
Et m'a dit aussi, vous voulez utiliser votre colère, donc voilà. Et je lui ai dit, oui, je veux garder en partie ma colère et je veux l'utiliser. Et aujourd'hui, 5 ans après, eh ben, je suis un usager engagé, un père aidant, père PAIR, père aidant vraiment dans plusieurs associations, dont une tournée vers l'addiction. qui s'appelait Alcool Assistance et qui oui. s'appelle aujourd'hui Entraide Addict.
D'accord.
Voilà. Et ce que je veux dire, c'est la place de l'entourage aimant et aidant dans ce qu'on a tendance à appeler une spirale infernale, et c'en est une, hein,
oui.
l'addiction à l'alcool.
Et oui. Forcément, j'ai plein de questions à vous poser, Yves, si vous acceptez, bien évidemment.
Bien sûr.
D'accord. De 2008 à 2017, vous nous dites que voilà, ça a été une descente vraiment abyssale hein,
oui.
pour votre épouse. À quel moment exactement vous vous êtes rendu compte qu'il se passait quelque chose?
Alors ça, c'est la première question, la question que tout le monde se pose. Pourquoi je n'ai pas vu avant? Pourquoi je n'ai pas vu avant que la maladie soit sérieuse, etc. Alors, on était un couple fusionnel, on avait 3 enfants déjà à l'époque, jeunes. Et on avait des amis, mais on vivait relativement vase clos. Moi, j'étais très pris par mon boulot à l'époque parce que j'aimais mon boulot et que je faisais des études en parallèle, etc.
Qu'est-ce que vous
faisiez ? J'en avais fait et que j'aimais ça.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ?
J'ai pas vu au début. Alors, il faut savoir qu'on a eu aussi dans notre vie d'autres événements et entre autres la maladie de notre plus jeune fils qui a 2 ans et demi a présenté une tumeur oculaire, un rétinoblastome. Donc, c'est un cancer. Hein. Là, le risque vital était engagé. On lui a enlevé son œil. Et l'Institut Curie, pour les citer, cet endroit l'a sauvé.
Oui.
C'est clair, l'a sauvé.
D'accord.
Il a été soigné par l'excellence du système de santé français. Et voilà, et moi j'étais là, mais c'est ma femme qui a porté le parcours de soins de notre fils bien plus que moi, avec le recul. Ça s'est passé en 2002. J'ai su après, parce qu'elle me l'a dit, qu'à ce moment-là, elle a eu recours à l'alcool pour calmer ses angoisses.
Oui.
Et je n'ai rien vu, rien. Elle a arrêté, c'est-à-dire qu'elle a réussi à se passer de l'alcool pendant plusieurs années. Et puis en 2007-2008, elle a eu des contrariétés au travail, parce qu'elle a perdu des responsabilités alors qu'elle y était pour rien.
Oui.
C'était simplement un changement d'encadrement qui n'avait plus du tout la même, le même besoin autour de son secrétariat. Et ma femme était la secrétaire et elle l'a très mal vécu, mais n'a pas su le dire. Voilà, et là, elle a commencé à reboire. Moi, j'ai rien vu parce qu'elle rebuvait le soir de l'alcool fort qu'on n'avait pas à la maison parce qu'on n'aimait pas ça. Elle non plus, d'ailleurs.
Ah oui.
Elle buvait de la vodka, du rhum, principalement, et elle le buvait caché le soir, juste avant de se coucher, pour que je ne voie pas.
Oui.
Et quand j'ai eu des doutes, parce que j'ai fini par trouver des bouteilles, eh bien, la maladie était déjà bien en place.
Ah oui.
Elle buvait régulièrement, toujours cachée, en prenant des précautions avec des bonbons à la menthe, etc. Enfin, très classique, hein, je ne suis pas le seul.
Absolument,
et donc,
malheureusement.
J'ai pas vu.
Malheureusement donc...
Et quand j'ai vu, eh ben, je lui ai dit des choses simples, des choses qu'il faut entendre, parce que voilà, c'est le béaba de l'aidant, je crois. Je lui ai dit, mon amour, tu es malade, tu es en danger, il faut te soigner.
Oui. Et elle a réagi comment ?
Eh bien, elle a accepté d'en parler à notre médecin traitant.
Ah oui.
On y a été ensemble. Dans la consultation où elle est d'abord rentrée seule, elle a accepté de faire une cure. Je l'ai rejoint.
Oui.
Et elle a accepté la cure. Elle a fait les démarches elle-même. Elle devait rentrer 5 jours plus tard dans sa première cure. Elle était en arrêt de travail, bien évidemment. L'avant-veille de rentrer en cure, elle m'a dit « J'aimerais bien retourner une dernière fois dans mon bureau ranger mes affaires. » On travaillait tous les deux dans l'hôpital de notre ville depuis 30 ans, donc on était très connus.
Oui.
C'est là qu'elle a été soignée en partie. Ce jour-là d'abord, puisque cette journée-là, elle a été dans son bureau. où elle avait mis l'alcool, mais à un moment donné, elle me répondait pas au téléphone. Je suis monté voir dans son bureau. Elle était derrière le bureau, allongée par terre. Elle avait 4 grammes d'alcool dans le sang.
Oui.
Voilà, c'est le début. C'est.
Oui. Qu'est-ce qu'on
c'est
ressent,
le début.
Yves.
Pardon.
Qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là? Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'étais terrorisé.
Vous aviez...
Je crois que c'est le mot exact. Hein.
Oui.
La première chose, j'étais terrorisé.
Mm.
Je crois que c'est ne pas comprendre. C'est vraiment... voilà, c'est vrai, on est totalement démunis.
Mm.
Là, c'était le risque vital. Je l'ai su à la première minute. Heureusement, on était dans l'établissement. Elle a été prise en charge aux urgences. Sur ce qu'on appelle une intoxication aiguë à l'alcool,
oui.
Autrement dit un coma éthylique profond.
Mm-hmm.
5 jours après, elle était en cure. Après la cure de 2-3 semaines à peu près, ce qu'on appelle une cure de sevrage, elle a tenu quelques mois et elle s'est soignée.
Qu'est-ce qu'elle vous disait?
Après, la dépression l'a rattrapée et le cycle a recommencé.
Yves, qu'est-ce qu'elle vous disait quand elle... Quand elle a repris, par exemple, là, suite à ce coma qu'elle a fait alors qu'elle sortait de cure, comment est-ce qu'elle se sentait? Qu'est-ce qu'elle vous disait à ce moment-là?
Alors, dans les phases où elle allait mieux,
oui.
Elle disait « je veux me battre ». Elle disait oui. Énormément tout ce qu'elle pouvait trouver sur la maladie. Et elle disait « je veux me battre, je vais me soigner,
oui.
Crois-moi, je vais me soigner, etc. » Ça, c'était les phases où elle se battait, où elle allait bien, hein, surtout au début.
Mmh.
Alors, elle allait bien, tout est relatif, hein, parce que au niveau psychique, déjà, le produit ne fait pas de cadeau, et puis ça ne disparaît pas en un jour, et surtout, moi, je n'avais pas les clés de lecture pour comprendre ce qu'il y avait derrière les propos.
Vous aviez espoir.
Voilà, mais elle a essayé de se soigner, ça, je le sais.
Ouais. Et vous aviez. Excusez-moi, je vous interromps parce que vous aviez espoir, vous aviez confiance. Comment est-ce
au
que
début,
vous...
ouais. Alors au début, l'espoir déjà, l'espoir fait vivre. C'est
connu.
C'est vraiment facile à dire, mais c'est quand même la clé. C'est aussi le message pour les entourages. L'entourage peut pas changer le comportement de la personne en soi. Mais l'entourage peut être là pour faire prendre conscience, déjà.
Oui.
Le mot-clé, c'est « tu es malade ». C'est souvent « je t'aime » et « tu es malade et en danger ». Ça, c'est le mot-clé du départ. Après, comprendre la maladie. Vous me demandez dans quel état j'étais. Eh bien, j'avais peur tout le temps.
Oui.
Ce qui vous rend hyper vigilant. Et puis après, quand vous comprenez que la personne se cache parce qu'elle ne peut pas se passer de boire, qu'elle vous ment, je suis tombé dans tous les pièges. Hein. Le piège, j'avais une petite cave avec quelques bouteilles de vin. Elle m'a dit, mets une porte dessus, j'y toucherai pas. Quelques mois après, elle a pris un tournevis et elle a bu la cave.
Oui. Vous parlez...
et c'était purement pathologique.
Vous parliez
c'est
de...
une maladie.
Oui. Yves, vous parliez de colère tout à l'heure. Vous parliez de colère. Est-ce que vous avez... ressenti de la colère vis-à-vis de votre épouse et est-ce que vous en avez
bien
encore?
Bien sûr,
vous lui
en voulez? Face au déni à certains moments, évidemment. Et puis, c'est même pas de la colère raisonnée, c'est les mots tout simples. Hein. T'as vu dans quel état tu te mets? Ce qui servait à rien, parce que mes moments de colère correspondaient souvent à ces phases d'ébriété. Donc, c'était totalement contre-productif. Parce qu'en plus, avec malheureusement ce que je peux appeler mon expérience, je me suis aperçu que dans ces cas-là, les mots que la personne retient, parce que le lendemain, elle avait oublié la plupart des choses, mais que ce qu'elle avait retenu, c'est les mots les plus culpabilisants, les plus méchants, les plus avilissants que j'avais pu dire. Ça, c'est évident, bien sûr. Bien sûr que je lui ai dit, si j'avais une caméra, je te ferais une vidéo pour pouvoir te montrer, etc. Bien sûr que je me suis énervé, évidemment. sans que jamais ça aille ailleurs. Mais je me suis énervé.
Oui.
Parce que quand vous êtes face à quelqu'un qui vous ment et qui est dans le déni total,
c'est compliqué.
Le déni, c'est l'incapacité de pouvoir reconnaître la moindre chose. Et ça, c'est un mur. Ça, je reconnais, hein, je sais pertinemment que c'est un mur. Et que ce mur-là, il est, à ce moment-là, infranchissable des deux côtés.
Oui. C'est sûr que le déni, c'est vraiment un menhir à déplacer et c'est très compliqué, je comprends. Vous nous avez dit que suite donc, au décès de votre épouse, vous avez ressenti le besoin de témoigner.
Oui.
Vous êtes allé sur Internet, vous avez trouvé cette association.
Oui, après, en parallèle, j'ai créé un site et j'ai publié. Voilà.
Voilà, donc vous avez écrit.
Oui. J'ai aussi écrit dans la presse.
D'accord. Donc, un livre blanc, qu'est-ce que vous avez...
Non, alors j'ai un site, www.fh3g.net.
J'ai pas très bien entendu.
www.fh3g.net. Alors, j'ai cherché longtemps le nom, alors je trouvais pas. Et donc, FH3G, c'est pour une femme, un homme et trois garçons.
Ah.
Le 3 est en chiffre dans le nom du site.
D'accord. Qui représente votre famille.
Voilà, tout à fait. Parce que je ne voulais pas créer un site avec mon nom, même si mon nom y figure et tous mes contacts. Hein.
Mmh.
Je ne fais rien d'anonyme. Mais je ne me voyais pas créer yvesbelliard.net. Donc mon nom, ce n'est pas un secret.
Oui.
J'ai publié en local. Je suis passé à la télé. Ça commence aujourd'hui.
Mmh.
Voilà. Et j'essaye de dire que l'entourage est un interlocuteur incontournable.
Oui, ça c'est votre message. C'est donc votre message, oui. Qu'est-ce que vous portez justement comme combat, entre guillemets, donc cette colère que vous avez transformée, c'est pour nous dire quoi, Yves ?
C'est pour dire ça, c'est-à-dire l'entourage mérite qu'on l'évalue dès le début, explicitement, et... qu'on positionne les personnes, c'est-à-dire que moi j'aurais souhaité que ma femme entende qu'elle avait un atout dans son jeu et que l'atout c'était le compagnon qu'elle avait choisi pour la vie, qui voulait l'aider.
Mmh.
Ce message, il est simple. Il est très peu relayé par les soignants et les médecins. Et quand je dis ça, je précise... Hein, personnellement, je n'en veux à personne. Il n'y a pas un seul nom sur mon site de personne à qui j'en veux. J'ai même une page complète de remerciements pour tous les gens qui ont aidé ma femme et qui m'ont aidé moi.
Mmh.
Il n'empêche que, en termes de parcours de soins, l'entourage est laissé de côté, tenu à distance, en partie parce que ça trimballe l'historique de l'alcool, hein, qui est de dire que au mieux, l'entourage n'y comprend rien. Au pire, il est complice. Ça, c'est ce qu'on entendait sans l'entendre pendant longtemps. C'était les non-dits, ceux qui faisaient qu'on tenait l'entourage à distance.
Si.
Aujourd'hui, ça change un peu.
Mm-hmm.
Seulement, ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, le drame, c'est que les moyens humains, et en particulier dans ces parcours-là, hein, autour de la santé mentale et de l'addiction, aujourd'hui, la pénurie de ressources humaines, c'est un amplificateur des pertes de chance à une échelle que personne n'ose réellement mettre en mots.
En mots,
il faut dire la réalité. Les délais s'allongent et il y a des gens désespérés, aussi bien des usagers malades que des usagers membres de l'entourage. Aujourd'hui, tout le monde est en souffrance, et les professionnels aussi.
Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se passe, si vous aviez...
Aujourd'hui, tous les possibles sont documentés. C'est vraiment qu'on soit soigné à certains moments ensemble, qu'il y ait un vrai dialogue, un dialogue instauré séparément quand il est nécessaire, séparément, avec tout le secret médical nécessaire. Si ma femme avait des problèmes avec notre couple et avec moi, eh bien, il était normal qu'elle le fasse entendre et dans un strict secret médical, même si je pense que c'était pas beaucoup le cas. Et si elle avait d'autres sujets qu'elle voulait aborder sans en parler autour d'elle, eh bien, je comprends très bien. Mais par contre, à certains moments, on aurait aussi eu besoin d'entendre certaines choses ensemble.
Je comprends.
Et alors, il y a un message thérapeutique, mais il y a aussi un message logistique de sécurité. Je ne savais rien de ces traitements. Mmh. Et je peux affirmer, et j'en ai la preuve, pour avoir tous ces dossiers médicaux à la maison, qu'à certains moments, son traitement était tellement lourd en termes d'anxiolytique qu'il était dangereux parce qu'elle n'était pas hospitalisée.
D'accord.
Et si vous voulez, parce que je sais qu'il faut aller vite, mais dans les aspects que moi, en tant que père aidant, ce coup-là, c'est-à-dire en tant qu'usager engagé, j'essaye de faire entendre pour influencer un peu le fait que ça disparaisse, il y a le message qui dit, et je l'ai entendu de la part de soignants qui ne croyaient pas faire mal, on m'a dit à moi, vous n'y pouvez rien, protégez-vous, protégez vos enfants. C'est pas vrai.
Oui,
c'est pas vrai. Bien sûr qu'il faut se protéger.
Oui, voilà. En fait,
Il faut se protéger pour pouvoir aider l'autre. Mais c'est pas vrai qu'on n'y peut rien. Bien sûr qu'on a le droit de tenir la main d'une personne, quelle que soit la maladie.
Je comprends. En fait, quelque part, vous êtes en train de dire que ce soit à travers, malheureusement, l'alcoolisme ou même d'autres maladies, ceux qui se portent volontaires, entre guillemets, même si, on est censé avoir le conjoint qui est là pour nous soutenir, mais les personnes qui se portent volontaires pour nous accompagner pourraient être presque formées, entre guillemets.
Bien sûr, alors il y a même des professionnels qui parlent de co-thérapeutes. Moi, je suis un peu sceptique parce que je sais qu'il y a des résistances là-dessus. Et puis, moi, je ne revendique pas une expertise aujourd'hui, si vous voulez.
Oui.
Par contre, le premier truc, la première chose, c'est aidant naturel. C'est vraiment, quelque part, c'était pour faire plaisir à nos parents, mais on s'est mariés, on a échangé des consentements. Si le rite du mariage, je l'ai fait pour mes parents, je dois l'avouer, les consentements, ils avaient un sens.
Pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire, ouais. Ça a un sens pour moi. Mmh. Et j'avais le droit de le dire à des professionnels du soin, j'étais à côté de ma femme pour prendre soin d'elle au maximum.
Ouais, je comprends.
Et si je ne pouvais pas tout comprendre de sa maladie, on pouvait en effet m'en expliquer beaucoup. Et on pouvait surtout nous inclure dans un dialogue mutuel. À certains moments, quand le déni, quand la maladie, quand le mensonge, quand la perte de confiance vient se mettre entre les deux personnes, c'est pas que l'alcool, le premier truc qui se met entre les deux personnes, c'est le silence des soignants.
Concrètement.
Et aujourd'hui, c'est ça le message.
Yves.
Et c'est ça le message pour l'entourage aujourd'hui.
Yves,
parce que moi, je vais dans les réunions, on parle entre nous, et je sais ce que vivent d'autres personnes. J'ai entendu, il n'y a plus aucun sentiment entre nous, c'est presque de la haine, je l'ai entendu ça. Mais à d'autres moments, si vous prenez les mêmes proches, et plus c'est tôt dans la maladie, plus ça vient précocement, plus le dialogue serait important. Et aujourd'hui, les professionnels ne s'en donnent pas les moyens, en bonne partie parce qu'ils ne le font pas. Aussi parce qu'il y a un historique. Mais aujourd'hui, ça change. Parce que les jeunes praticiens, ils l'entendent ça, ils commencent à le savoir. Mmh. Et puis après, il y a la question qui m'a été posée par ma thérapeute. J'entends tout ce que vous me dites, mais on a essayé de la soigner autour du produit. Mais est-ce qu'on l'a aidé à chercher les causes ?
La source. Oui.
Et là, c'est toute la problématique de, à un moment donné, est-ce que les professionnels ont encore le temps de la parole thérapeutique ?
Alors, ont-ils encore le temps ? C'est vrai que c'est en fonction, en plus, du sujet. Il y a une telle urgence, parfois, qu'il faut d'abord...
Je sais bien, voilà, je sais. Et oui. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, c'est en train de s'aggraver largement, faute de professionnels. Donc si on n'utilise pas un peu l'entourage, si on ne lui donne pas un minimum les moyens d'être aidant, parce que c'est quand même une ressource. J'étais une ressource. Et j'ai sauvé ma femme une dizaine de fois.
Donc en fait, déjà, il faudrait trouver, donc si je comprends bien, un juste milieu entre je dois me préserver et en même temps, je suis là pour aider.
Bien sûr.
Oui.
Après, ça dépend de la volonté et de la capacité d'implication de la personne. Hein. Je ne vous dis pas que tous les entourages sont capables de faire ça.
Et puis du malade aussi. Yves, vous m'entendez?
Oui.
Du malade aussi. C'est-à-dire que parfois, quand on est vraiment au fond du seau, vous avez des personnes qui n'ont pas forcément envie de partager leur douleur, leur souffrance.
Ah bien sûr, mais c'était sûrement en partie le cas. Et à certains moments, c'est pour ça aussi que les soins coupés des proches, c'est utile. Ça, je le nie pas. Je sais très bien, hein, ma femme a passé plusieurs post-cures de 3 mois et de 6 mois, même une fois.
Oui.
Mais il y a aussi l'intolérable. L'intolérable, c'est... Alors aujourd'hui, ça commence à bouger, mais avec ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages, qui dit qu'aujourd'hui, la consommation n'est plus un motif d'exclusion. Mais moi, j'ai eu le droit à ce foutu coup de téléphone après 3 mois de post-cure de ma femme, à 2 jours de sa sortie, un samedi soir, mon téléphone a sonné.
Oui.
Et l'infirmière m'a dit la chose suivante, votre femme a bu, elle a rompu son contrat, demain on la met au train. À 2 jours de la fin, il foutait en l'air tout le bénéfice d'une post-cure parce que ma femme avait eu peur de la sortie. Et je n'avais strictement rien à dire. Ça, c'est une rupture du parcours de soins organisé. C'est une perte de chance totale et d'une violence inouïe pour l'entourage.
Encore une fois,
il y a encore des structures qui utilisent ce type de procédure, j'en suis persuadé, en France aujourd'hui.
Donc,
puis il y a l'autre, après peut-être qu'il sera temps d'arrêter, mais l'autre dont je veux parler, c'est que moi, à plusieurs reprises, j'ai fait, puisqu'il faut le dire comme ça, malheureusement en France aujourd'hui, j'étais le tiers demandeur des hospitalisations sous contrainte, c'est-à-dire contre sa volonté de ma femme.
Oui.
La première fois que je l'ai fait, c'est quand le psychiatre m'a dit les mots suivants. Votre femme est suicidaire, elle refuse l'hospitalisation, vous devez l'hospitaliser. Et c'était le médecin qui parlait au mari. Et ça fait reposer sur l'épaule du mari le fait de faire enfermer sa femme. Et c'est explicité comme ça. Et le seul interlocuteur qu'on a derrière, ça s'appelle le tribunal. Ça, c'est d'une violence inouïe pour le couple.
Oui. Ah, c'est sûr que...
Et aujourd'hui, ça perdure en France sous cette forme-là.
C'est sûr que le parcours n'est pas simple.
Il y a besoin des procédures d'urgence, de faire hospitaliser la personne contre son gré parce qu'elle est en danger et c'était le cas, ça, je crois que tout le monde peut le comprendre à un moment donné. Par contre, le fait dans la forme de dire c'est le mari qui a demandé, d'abord, à la place de m'appeler tiers demandeur, ils auraient pu m'appeler conjoint aidant et c'est pas prévu dans les papiers. Et puis le deuxième, eh bien, c'est de nous laisser seuls avec ça. La deuxième fois, une des autres fois où c'est arrivé, quand je suis arrivé dans le service des urgences, ma femme était déjà sous sédatif, attachée sur le brancard, prête à partir, ils m'ont fait signer le papier. Parce que quand elle s'était réveillée énervée, elle avait fait une fugue des urgences.
Oui. Hein?
Sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que 2 jours après, moi je me suis retrouvé dans le salon de visite du service fermé. Un service fermé dont elle n'avait pas le droit de sortir. Dans ce salon de visite, ils nous ont laissés seuls. Ma femme m'a regardé et m'a dit, tu sais, ils m'ont endormi, ils m'ont attaché sur le brancard. Je me suis réveillé dans une pièce entièrement vitrée où je pouvais pas, même pas aller aux toilettes sans qu'ils me regardent. Et elle a continué sa phrase, elle m'a dit « Pourquoi tu m'as fait ça ? Je m'en souviendrai toute ma vie. » Mais est-ce que dans la forme, c'est moi qui ai fait ça ? Moi, j'ai fait la seule chose qu'on me laissait faire pour la protéger, pour lui sauver la vie.
Oui. On sent, hein, Yves, beaucoup de culpabilité chez vous, parce que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, à savoir est-ce que vous éveillez... commencer à voir les premiers signes. Vous m'avez répondu à la question « Et pourquoi je n'ai pas vu avant ?»
Bien sûr. Oui. Parce que la culpabilité, là, je la trimballe sous forme d'une boule dans l'estomac depuis si longtemps. Elle est simple à résumer, hein, si j'avais su.
Oui, c'est ça. Si j'avais su, c'est exactement ça. Sauf qu'on ne refait pas l'histoire. Mais j'imagine que de toute façon...
Bien. Alors maintenant, j'ai... pour éviter ce que mon médecin prétend a appelé la rumination pathologique, eh bien je la publie et j'en témoigne. Bien sûr que je me sens coupable, parce que la femme que j'aimais vivait à mes côtés, parce qu'on a toujours dormi dans le même lit, parce que c'est dans ce lit-là, à 25 mètres de moi, que je l'ai trouvé décédé. Et
oui.
Un soir où j'étais fatigué, je me suis endormi, je n'ai pas été voir. Je pensais que les jours avant, elle avait peu bu, je n'ai pas vu. Voilà. Elle a fait une fausse route, elle s'est étouffée. Ça aurait pu arriver 7 ans avant. Parce que ça, c'est une des choses qu'on m'a dites au moment de son décès, ça. C'est vu sa pathologie, ça pouvait arriver n'importe quand.
Oui.
Je ne sais pas si vous pouvez mesurer avec moi l'insécurité dans laquelle on a vécu avec 3 enfants.
Je peux l'imaginer, c'est sûr que...
Moi, j'ai passé des nuits entières à me réveiller en sursaut pour écouter sa respiration.
Oui.
Parce que je ne pouvais pas trouver toutes les bouteilles.
Mmh.
Et
aujourd'hui,
c'est infernal.
Yves, où vous en êtes aujourd'hui ?
Où j'en suis, à ce que je fais maintenant, voilà. Au téléphone. Voilà.
Voilà. Comment est-ce que vous allez ? J'ai envie de vous poser la question. Comment allez-vous, Yves, aujourd'hui ?
Ah, c'est compliqué. Je suis traumatisé. Je vais pas si mal que ça, mais je suis profondément traumatisé par ça. C'est simple à dire. Je suis traumatisé et je le resterai parce que l'absence de dialogue, parce que le silence vis-à-vis de l'étang où j'étais, j'ai toujours été visible. J'ai toujours été à côté de ma femme.
Oui.
Et à certains moments, elle m'a pris la main et je sais que ma présence la stabilisait. On m'a déconseillé de m'enfermer dans sa maladie. On m'a dit, vous enfermez pas dans sa maladie. Bah oui, mais chacun fait son choix. Et à un moment donné, moi je sais avec le recul que quand on partait en vacances, quand on se coupait du quotidien qu'elle ne supportait plus, eh bien, le fait de m'avoir à ses côtés, ça la sécurisait.
Hein ? Est-ce que vous arrivez...
Des fois, elle se réveillait énervée aux urgences, encore sous l'effet de l'alcool.
Yves,
hein ? Après les perfusions et après avoir failli laisser la vie.
Yves,
mais plusieurs fois, et une fois en particulier, quand elle s'est réveillée, j'étais à son côté. Elle m'a pris la main et elle m'a dit la seule chose que je ne m'attendais pas à entendre. C'est « J'ai peur, aide-moi. »
J'essayais de vous dire que vous avez fait ce que vous avez pu.
Oui, je sais, j'ai fait tout mon possible. Et j'ai frappé à toutes les portes.
Oui.
Et il n'y en a pas beaucoup qui s'ouvrent, et j'ai le droit de le dire.
Mais qu'est-ce qui arriverait
à vous ? Je veux dire, la seule soupape de sécurité que j'ai, c'est mon engagement.
Aujourd'hui, l'engagement que vous avez vis-à-vis des autres, est-ce que vous sentez que vous leur apportez quelque chose ?
Oui.
Alors ça peut vous nourrir énormément.
Oui,
continuez à vous nourrir de cela, parce que ça va vous permettre d'atténuer cette douleur, cette absence, cette rumination, comme vous dites.
Oui, je sais. Je pense que petit à petit, j'ai appris à poser les bons mots. À la fois sur l'aventure, sur elle en partie, et sur moi, et sur mes enfants aussi. Parce qu'une des craintes après, c'est qu'est-ce que ça a fait à mes enfants.
Alors comment vont-ils, vos enfants, vos 3G, comment vont-ils?
Ah, ils vont pas mal. L'aîné a 25 ans.
Oui.
Il est dans la vie active maintenant. Le moyen a 3 ans de moins. Mmh. Et le petit dernier a encore 2 ans de moins. Il a 20 ans.
D'accord.
Ils vont relativement bien, autant que je peux le savoir.
Oui.
Voilà. Comme je fais pas mal de prévention autour de l'alcool, ils ont eu le droit. Aujourd'hui, j'ai mis le sujet un peu à distance entre eux et moi. Mais voilà, ils savent ce que je fais, ils savent ce que je publie, ils savent que je suis là avec vous au téléphone. Voilà.
Alors, on transmet le bonjour, alors on leur passe le bonjour s'ils
voilà.
nous écoutent. Absolument.
Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je suis toujours inquiet et que je le serai toute ma vie. Parce que je me demande quelles sont les vulnérabilités dont ils ont... aujourd'hui, ils sont forcément plus vulnérables. Une professionnelle qui m'a beaucoup aidé m'a dit la chose suivante: si toutes les personnes qui étaient vulnérables développaient la maladie, ça serait depuis longtemps. Donc voilà, j'espère qu'ils entendent mes messages. Et puis, faut savoir quand même qu'à certains moments, ils m'ont aidé physiquement. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis handicapé de naissance, même si je suis valide.
Oui.
Et que c'est mon fils aîné qui portait sa maman.
D'accord. Il portait physiquement.
Il avait 16 ans à peu près à l'époque.
D'accord.
Et ça, j'ai jamais pu en parler avec un soignant. Parce qu'on ne nous laisse pas le temps. Hein. Un jour, un médecin m'a reçu pour me dire une seule chose: ne transformez pas vos enfants en sentinelles. J'ai pas eu le temps de lui dire que moi, je n'utilisais pas mes enfants pour surveiller leur mère. Et quand ils le faisaient, je leur disais pas. Mais par contre, j'utilisais l'aîné, oui, pour porter sa mère dans certaines circonstances.
Mmh. Mais encore...
Et cette absence de dialogue...
Oui, c'est ça. Mais en même temps,
alors, le
personne ne vivait
entourage.
Avec vous, Yves. Personne n'était sous le toit, sous votre toit, pour voir ce qui se passait. Donc, voilà, c'est
ça,
cela...
Mais ça, je suis d'accord avec vous, oui. Ok, je suis tout à fait d'accord. Hein. Quand ma femme allait en hôpital de jour avec 3 grammes dans le sang et qu'il allait se reposer en à côté des activités et qu'il la ramenait, il faisait un stop en voiture devant le domicile familial pour la déposer dans la rue et qu'il ne m'appelait pas, c'est sûr qu'il ne voulait pas savoir ce qui se passait après dans la maison.
Oui.
Il ne voulait pas savoir qu'une fois, elle n'avait pas ses clés. Et que c'est mon fils qui l'a retrouvé sur le banc derrière la maison en état d'hypothermie et inconsciente parce qu'elle avait été rachetée de l'alcool. C'est sûr qu'il ne pouvait pas savoir parce qu'il ne le demandait pas. Il y a un moment où il faut quand même prendre en compte les responsabilités médicales dans l'histoire. Moi, je veux bien qu'on dise on ne sait pas ce qui se passe dans le domicile. Mais après, ils vous disent aussi que vous êtes codépendant. Ils vous disent tout ce que vous ne devriez pas faire. Mais venir vous voir au quotidien aujourd'hui et vous accompagner, vous offrir des services, voire une prise en charge et des soins, alors qu'ils savent dire que c'est une comaladie. On parle même de familiopathie.
Oui.
Eh bien, qui dit familiopathie dit accompagnement familial.
Mmh.
Moi, je suis un militant maintenant et un usager engagé. Je ne parle pas que de moi, là. Je suis en train de vous dire que le message pour les entourages, c'est de ne pas rester seul et d'aller vers les professionnels et de taper aux portes et d'aller dans les groupes de parole.
Et de se renseigner.
Et je parle de l'entourage.
Ouais, ouais.
Parce qu'il faut quand même savoir que qui franchit la porte en premier. Et aujourd'hui, je le sais, moi, parce que je suis père aidant dans une association. Qui franchit la porte en premier pour venir savoir comment on peut soigner l'autre, eh bien, c'est l'entourage.
Oui.
Alors, pourquoi après, dans tout le reste du circuit, on le tient à distance?
Oui, je pense que votre message est extrêmement clair. Maintenant, j'espère, et puis c'est le cas, puisque vous nous l'avez confirmé, qu'il y a de plus en plus de thérapeutes, de l'encadrement, en tout cas médical, fait un peu plus attention également, et puis ils font eux aussi ce qu'ils peuvent.
Oui, ça bouge,
parce que grâce à vous, grâce à plein d'autres personnes comme vous qui sont sensibles parce qu'ils ont vécu à travers leurs histoires, eh bien, ça bouge, ça avance. Et puis, vous voyez, des témoignages comme les vôtres, plus on entend vos histoires, et puis en fait, y a quand même des choses qui avancent et qui cheminent petit à petit. Donc, merci. Merci Yves d'être
merci
une étoile
vous,
de plus. Une étoile de plus pour nous éclairer pour la suite. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Yves?
Ce que vous pouvez me souhaiter?
Oui.
De réussir mon engagement, je crois, aujourd'hui, parce que c'est ce qui me porte. J'ai fait le choix de la retraite parce que j'avais le choix. J'ai quelque part un peu abandonné un métier que j'aimais bien pour me consacrer à ça. Voilà.
D'ailleurs, j'ai essayé tout à l'heure de savoir quel était le métier que vous faisiez.
J'étais informaticien dans un
hôpital
pendant 30 ans. Et j'ai eu la chance de m'éclater dans un domaine où l'informatique a pris une place prépondérante aujourd'hui. Qui d'ailleurs me permet de dire que le secret médical est tout à fait à sa place, surtout quand l'information est bien partagée.
Dans tous les cas, vraiment, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Vos fils également, je leur transmets mon bonjour.
Et moi, je vous remercie d'être là.
Écoutez, c'est tout à fait normal. Donc, je rappelle aux auditeurs www.fh3g pour avoir plein de renseignements que vous aurez déposés.
.net, oui.
Merci infiniment, Yves.
Merci à vous encore une fois.
Europe 1. La libre antenne. Sana Blanger.
Europe 1, c'est la libre antenne. Merci de votre fidélité. Si vous nous rejoignez, il nous reste une petite heure à passer ensemble et nous accueillons tout de suite Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive Sylvie?
Alors j'ai peur du suicide. Si vous voulez, je suis contre le suicide. Il y a 7 membres de ma famille qui sont suicidés. Et à mon père qui s'est pendu, on l'a dépendu, on l'a réanimé. J'étais en 3e école de médecine. J'ai pu faire repartir le cœur. Mais bon, ça c'est... Et 4 ans après, il s'est jeté du 4e étage. Donc là, maintenant, c'est une cousine. Ça a descendu d'un rang. C'est plus nos parents, c'est nos cousines. Et là, j'ai un petit cousin qui vient de se foutre en l'air.
Ah oui.
Donc, je me demande à quel point on n'est pas tous atteints de suicide. J'en ai tellement bavé, moi, avec ce qui s'était passé, de le réanimer et tout, et que les gens se suicident comme ça. Mais ce qui me fait peur, c'est que jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était de la lâcheté. Maintenant, je me demande si c'est pas du courage.
Ah, c'est vraiment un vaste sujet et un vaste débat, parce que forcément, voilà. Vous avez effectivement, Sylvie, des personnes qui vont vous dire les personnes qui se suicident sont lâches, et puis d'autres vont vous dire il faut du courage pour passer à l'acte. Voilà, c'est vraiment pas évident. Dans les deux cas, en tout cas, pour ceux qui restent, c'est un sentiment d'impuissance, d'échec.
D'échec, oui.
De traumatisme également, comme vous êtes en train de
Oui, en plus, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, donc ça n'a pas été... j'ai perdu une petite fille de 3 ans après. Et après, j'ai eu un accident, j'ai perdu la main gauche. Enfin, bref, il n'y a pas que ça. Mais j'en avais parlé avec Sabine, hein, mais Sabine m'avait demandé si j'avais bu. J'ai dit non. Et elle est restée sur le fait. Elle m'a dit, vous avez pris quelque chose? Je lui ai dit non. Elle m'a pris hors antenne. Elle me dit, faut vous faire soigner. Hein. Je pense qu'elle avait pensé que j'avais bu ou que j'avais pris des drogues, j'en sais rien. J'avais une drôle de voix cette fois-là, je sais pas.
Bon, en
mais
tout
c'est
cas,
vrai que...
Nous sommes ensemble et j'entends votre peur. Et j'ai même envie de vous dire que votre peur est légitime. Elle est légitime au regard de l'histoire de votre famille. N'importe quelle personne finirait par se dire « J'ai peur que ça m'arrive moi-même. » Donc je la comprends, votre
ouais.
peur.
Surtout que je suis contre les psychiatres et contre les psychologues. Je n'irai pas voir... Le psychiatre, quand mon père est décédé, il n'a pas vu que j'étais dans la salle. Il a répondu, quel est ce con qui s'est pris pour Dieu? Dans 2 secondes, il avait réussi à regarder le coup. Il a recouvert et il m'a vu. Alors, il m'a couru après pour s'excuser et m'a téléphoné. J'ai jamais voulu l'entendre.
Donc, en fait, vous n'êtes absolument pas accompagnée aujourd'hui par rapport à votre peur?
Non, jamais j'ai été accompagnée.
D'accord.
Jamais, jamais, jamais. J'ai fait accompagner mes sœurs.
Oui.
Mes sœurs ont été accompagnées. Il y en a une qui a fait une cure de sommeil. Mais moi, je ne sais pas. Depuis qu'il m'a fait cette réflexion-là, il m'a fait louper mes études puisque j'ai dû arrêter. J'étais à 3 ans et demi. D'école de médecine.
Ouais.
Donc c'était déjà pas mal. Et,
bah oui.
et ben, j'ai tout arrêté, j'ai tout claqué, j'ai quitté ma ville, je suis partie pendant 3 mois comme ça en vadrouille. Et puis quand je suis rentrée, ben, j'ai changé de région. Je me suis retrouvée un petit appartement dans la région parisienne et je me suis installée là. Et j'ai revu mon père pour la première fois. 4 ans après, et il fallait lui donner à manger à la cuillère et tout. Donc je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ai réanimé? Pourquoi j'en ai fait un légume comme ça? Et ça me travaille. Ça me travaille. J'en ai parlé avant avec ma mère avant qu'elle décède. Elle me dit, oui, mais elle me dit, on était à deux. Elle me dit, t'es la seule à pouvoir faire un massage cardiaque. Elle dit, moi, je ne pouvais rien faire à part le dépendre, t'aider à le dépendre. C'est tout ce qu'on pouvait faire.
Sylvie, selon vous, pour quelle raison est-ce que vous avez effectué cet acte? Pour quelle raison?
J'en sais rien.
Mais si, vous le savez.
J'ai pas compris, parce que la veille, on jouait tous au Monopoly.
Mais...
Et le lendemain, il se pend.
Il se pend, vous le détachez, vous le réanimez. Selon
oui.
vous, pour quelle raison est-ce que vous avez fait ce geste?
Je ne sais rien. Avec le recul, je regrette. Mais bon, c'était mon père. Il fallait que j'essaye quelque chose.
Eh bien voilà, vous voyez, vous avez déjà la réponse. Parce que c'était mon père... Et parce qu'il fallait que je fasse quelque chose.
Oui, mais pendant 4 ans, moi je suis partie, mais pendant 4 ans, j'ai mis mes sœurs et ma mère dans la mise. C'est eux qui allaient tous les jours à la clinique psychiatrique le voir. C'est eux qu'on tout pris quand il y a eu le feu à l'hôpital. Ils ont dû changer. Ils l'ont mis dans une clinique avec un balcon au 4e étage. Que vous voulez qu'ils fassent, c'était la meilleure occasion.
Elles vous en ont voulu?
Non, j'ai plus de contact. J'ai plus de contact avec mes sœurs, je vais vous dire pourquoi, et avec ma mère. Simplement parce que moi, j'ai tenu le coup. J'ai toujours paru très, très forte.
Mmh.
Et quand j'ai perdu ma petite fille de 36 mois, on m'a dit, heureusement que c'est toi, parce que serait-il une autre, elle n'aurait pas tenu.
Ah oui. Vous l'avez...
Donc là, j'ai coupé les ponts. Je ne veux plus entendre parler de personne. J'ai appris que ma mère était décédée, qu'elle fait 2 mois de réanimation.
Mmh.
J'étais pas au courant qu'elle était en réanimation. Je ne sais pas si j'aurais été la voir ou pas. Je Franchement, j'en sais rien. Mais je leur en veux. Ils n'ont pas pensé. Les autres, ils ont le droit d'avoir des drames. Hein. Et les autres, non. Et les autres, non.
En tout cas, ça, c'est ce que vous ressentez, vous. Un sentiment d'injustice en se disant, mais moi, parce que je semble forte, eh bien, je n'ai pas le droit de mettre un genou à terre. Je n'ai pas le droit de me
Voilà.
plaindre.
À chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mes soeurs me téléphonaient,
Oui.
ma mère me téléphonait, j'ai changé de train, pour vous dire, elle n'est pas chez moi. Elle change, son train arrivait de la région du nord de la France à 7 h le matin et elle partait vers l'Italie où j'ai une autre sœur. 2 heures après, les 2 heures j'ai passé avec elle. C'est les seules heures que je passais quand elle partait en Italie. Elle n'est jamais venue chez moi.
Ouais.
Jamais, jamais, jamais.
Alors Sylvie, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Yves, qui est passé juste avant vous. Comment vous allez aujourd'hui, Sylvie? Comment ça va?
Comment ça va? Ben, je suis dans des convulsions épouvantables. Je grossis à vue d'œil. J'achète des vêtements, les trois quarts, je les mets pas. J'achète des courses, les trois quarts, je les jette. Et par contre, je m'alimente depuis 6 mois. Je m'alimente de chamallows et de spéculoos. Il n'y a rien d'autre qui passe.
Ah oui. Bon.
Donc j'ai pris énormément de poids.
Mais vous ne mangez que ça la journée?
Ouais. Mais je mange 4-5 paquets. Je me fais livrer 50 paquets de chamallows et 50 paquets de spéculoos pour le mois.
Et comment est-ce que vous trouvez votre alimentation actuellement?
Je la fais livrer par un grand magasin.
D'accord. Et quel regard vous avez sur votre hygiène alimentaire actuellement?
Il est atroce. Il est atroce, grossi à vue d'œil. Je suis de plus en plus moche. Il n'y a plus un miroir, j'ai caché tous les miroirs. Je me pèse même plus. Et je continue. Ma vie, c'est je me lève, je prends ma douche, je prends un paquet de spéculoos, je m'installe dans mon canapé, je lis ou je regarde la télévision ou des bandes que j'ai enregistrées. À midi, je prends un yaourt, un petit truc. Et puis, bah, l'après-midi, je mange des chamallows en regardant la télévision. Et à 18 h, je suis dans mon lit avec mon paquet de spéculoos. Et je mange mon paquet de spéculoos avant de m'endormir. Voilà ma vie, comment elle est faite.
Alors, vous avez fait 3 années de médecine, Sylvie.
Oui.
Si vous deviez vous diagnostiquer, qu'est-ce que vous diriez de ce que vous traversez actuellement?
Dans un état compulsif,
D'accord.
que je traverse une mauvaise phase, une mauvaise période en mettant tout sur la compulsion.
C'est exactement ça. Qu'est-ce que... Donc, le constat, il est posé. Vous
Oui.
m'appelez ce soir, vous m'appelez. Donc, il y a quelque chose. Vous voulez... Qu'est-ce que vous attendez de moi, Sylvie?
J'avais envie de parler à quelqu'un, mais aller voir un psychiatre, je peux pas, il m'a fait trop de mal. Il m'a fait trop de mal.
Alors, tout...
Je sais que tous les psychiatres sont pas pareils,
C'est
mais
exactement
c'était
ça.
la médecine d'il y a 40 ans. Mais je peux pas, je peux pas. J'ai pris des rendez-vous. Chez un psychologue, je l'ai annulé, j'en ai repris un, j'ai annulé, j'en ai changé un, j'ai réannulé, je suis incapable d'y aller. Je
D'accord.
suis incapable d'y aller.
J'ai une idée et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord?
Oui.
Alors, les psys, pour vous, pour le moment, c'est compliqué. On peut y aller vraiment progressivement. Avant d'aller voir un psy, et si vous alliez d'abord voir un nutritionniste? Un nutritionniste est un médecin qui va vous aider à déjà rééquilibrer votre alimentation. Et puis quelque part, vous allez peut-être lui dire ce qui vous arrive. Vous allez vous confier à quelqu'un qui est un spécialiste et ça va peut-être vous donner confiance déjà dans le fait de vous confier ou vous témoigner ou vous exprimer face à quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un de la médecine. Vous voyez, donc vraiment d'y aller progressivement.
Et oui, puis... mais le nutritionniste va voir l'état, dans l'état où je suis, il va m'envoyer en psychiatrie. Il va dire, elle n'est pas normale de manger des spéculoos et des trucs depuis 6 mois, parce que je mangeais avant. Donc, elle n'est pas normale, on va le mettre en psychiatrie.
Alors, elle n'est pas normale, moi je le dirais différemment. Ce n'est pas normal, mais pas vous n'êtes pas normal. Même si certaines personnes pourraient le penser, mais entre vous et moi, nous le savons, ce n'est pas normal d'avoir ce type d'alimentation. Et je ne suis pas en train de vous dire, vous n'êtes pas normal, Sylvie. D'accord.
Mais il n'y a que ça qui passe. Je vomis, sinon je me fais vomir.
Donc, clairement, on est sur un trouble du comportement alimentaire. Vous l'avez dit. Donc, c'est en cela que je dis, effectivement, commençons déjà par un nutritionniste. Et puis ensuite, vous verrez quelle est la prochaine étape. Elle est inévitable. Vous ne pouvez pas rester comme ça, sauf si vous me dites, moi Sana, je vais très bien dans ma vie, j'assume totalement, je sais ce qui peut arriver et je m'en fiche.
Oui, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que je m'en fiche. J'ai été opérée du crâne et j'ai eu de la morphine. Et mon médecin m'avait réclamé la morphine pour ne pas faire de conneries. Et la morphine, je l'ai gardée. J'ai gardé la morphine, j'ai énormément de morphine. Donc je sais très bien que je peux passer très vite.
Que vous pouvez passer très vite, c'est-à-dire?
Que je peux prendre très vite de la morphine et être tranquille. Ça, je sais que je peux le faire. Mais maintenant, faut-il avoir le courage d'ouvrir une ampoule et de se l'injecter?
Oui. Donc là, on revient au débat du début, c'est-à-dire l'acheter au courage, c'est ça?
Oui. Mais j'étais vraiment contre... J'en ai voulu à mon père de m'avoir foutu ma vie en l'air, de m'avoir foutu mes études de médecine en l'air. J'en ai voulu. J'en ai voulu... il y a un de ses frères qui s'est mis une balle dans la bouche. Je sais pas, ça me paraissait... je me disais, mais ils sont cinglés, ils sont complètement tarés. Pourquoi ils n'ont pas été soignés à temps? Pourquoi on n'a rien vu? Mon père, on jouait au Monopoly.
La veille.
On jouait au Monopoly. Il était ingénieur des ponts et des chaussées. Il travaillait, il était de garde ce week-end, donc il ne pouvait pas bouger de la maison. Donc on a fait un Monopoly jusqu'à presque 2h du matin. Et en s'amusant tous, en riant tous. Et puis quand on s'est rendu compte qu'il était 2h, tout le monde est allé se coucher.
Sylvie, vous voulez bien me répéter la question que vous m'avez posée juste avant? C'était pourquoi... On s'en est pas rendu compte avant?
Ouais, pourquoi on s'est pas rendu compte avant? Parce qu'on a joué toute la journée, on a fait un Monopoly avec lui.
Et donc, si vous vous en étiez rendu compte, qu'est-ce que vous auriez changé, Sylvie?
Mais on l'aurait montré à un médecin, on l'aurait montré à quelqu'un.
D'accord.
Il faisait son boulot normalement.
Sylvie?
Il était ingénieur des ponts et chaussées, il avait toute une équipe... Sous son aile, hein. Mmh. et il était... on n'a rien vu. On n'a rien vu du tout, du tout, du tout.
Alors Sylvie, moi je suis comme vous il y a quelques années, et je suis en train de vous dire que ce que vous avez vécu, c'est exactement ce que je suis en train de vivre avec vous. Je suis en train de vous dire que j'aimerais que vous vous preniez en charge, que vous fassiez quelque chose, parce que vous êtes en dépression, Sylvie.
Je sais. J'ai eu le courage de vous appeler. J'avais appelé
merci.
Sabine la fois dernière.
Mais merci de m'avoir
appelé.
C'était
mal passé. Et puis,
merci.
Je me suis
vraiment.
Dit, avec Sana, ça va aller mieux. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois vraiment aller voir un nutritionniste, parce que si je vais voir un nutritionniste, je vais être mise dans les mains d'un psychiatre tout de suite.
Sauf si vous dites au nutritionniste, je viens vous voir, vous lui expliquez exactement ce que vous êtes en train de m'expliquer. Racontez-lui la même chose que ce que nous sommes en train de faire toutes les deux ensemble. Dites-lui quelle est votre histoire, dites-lui votre peur, dites-lui tout ce que vous me dites actuellement.
Je sais pas si j'aurai le courage. Je ne sais pas. Moi, je vais vous laisser. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui attendent.
Non, là, ça va pour le moment. Je préfère rester encore un petit peu avec vous.
Non, je ne sais pas ce que je dois faire. J'avoue que je ne sais pas.
Oui.
Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai des teintes de morphine. Je m'en suis déjà collé deux tout à l'heure, que j'ai enlevé 2 heures après parce que je me sentais mal, j'avais mal au cœur. Donc je me suis dit, enlève tout de suite ça. Et j'ai pas eu le courage de continuer.
Dites-moi, Sylvie, si je vous rappelle après l'émission, est-ce que vous acceptez de me parler? On se pose toutes les deux. Ouais.
D'accord. Okay.
Promis, vous me répondez?
Ah oui, promis.
D'accord. Bon, alors je vous donne rendez-vous à 00:01.
Ok, d'accord.
À tout à l'heure. Donc, nous allons accueillir Philippe. Bonsoir, Philippe.
Oui. Oui, bonsoir, Sana.
Beaucoup d'émotions ce soir dans cette émission. C'est très fort.
C'est très dur de passer, effectivement, après certains témoignages.
Oui, enfin, je rassure les auditeurs. Vraiment, j'appellerai Sylvie juste après. Après
oui,
l'émission.
Tout, oui.
Ah oui, vraiment. C'est urgent.
Ouais.
Philippe,
ouais.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Bien, bon, d'abord, je voulais souhaiter à Dany paix à son âme.
Ouais.
C'était une très jolie chanson. Je crois que c'était un texte de Gainsbourg. C'est Gainsbourg qui l'avait.
Absolument. Absolument. Voilà. C'était un texte qui devait d'ailleurs être présenté à l'Eurovision. Et puis finalement, c'est Étienne Dao et Dany qui ont récupéré la chanson.
Ah, d'accord. Moi, mon problème, il est différent de ce que je viens d'entendre. J'ai un problème de saisie immobilière.
Oui.
J'ai confié à mon frère, il y a 3 ans, une certaine somme pour payer les charges de mon appartement. Nous sommes en indivision, sur une maison et sur un appartement.
D'accord.
Et je vais confier parce que, bon, je suis un peu bipolaire. Et ces 5 dernières années, j'ai eu trois décès, ma compagne, un très bon ami, et puis ma mère. Voilà.
Oh, je suis désolée.
Donc ça m'a foutu un peu en l'air pendant quelques années.
Mmh.
Et donc, je n'avais pas confiance en moi au niveau de la gestion de mes biens. Et alors, il se trouve qu'en fait, mon frère n'a pas réglé les charges, que la somme se monte actuellement à 5 000 euros. J'ai proposé un échéancier de 500 euros par mois, que je respecte depuis l'année dernière.
Oui.
Mais il y a une procédure qui est lancée et je n'ai pas reçu certaines convocations, alors que moi, je m'attendais à défendre mon point de vue, à expliquer les raisons de ces non-paiements,
oui.
dont j'étais innocent, en fin de compte.
Oui.
Et voilà. Et... Et là, je suis un peu dans la panade parce que, bon, j'ai 69 ans et ça va m'être difficile de quitter l'appartement où je suis, de retrouver un autre lieu. J'ai deux enfants, l'un est à Strasbourg et l'autre est en Bretagne. Donc, faut que je me débrouille seul. Sans bien sûr l'aide de mon frère. Alors j'ai déposé plainte, je vais déposer plainte contre lui. C'est délicat, c'est difficile à faire parce que la famille c'est comme les amis, hein, quand on est trahi, on est doublement trahi parce qu'on a une certaine confiance. Voilà, alors j'ai cherché un peu dans la jurisprudence, voir si il était possible d'arrêter, de stopper la procédure, mais c'est pas évident parce que quand on parle de finances, d'argent, bah c'est les banquiers, c'est les syndics, c'est les huissiers qui, je dirais pas qui jubilent, mais dont c'est le fonds de commerce, dont c'est le fonds de commerce. Et face à eux, on se sent petit quand même. Hein. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec les témoignages précédents.
Mais c'est une libre antenne, justement. C'est ouais. La magie de la libre antenne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout. On passe de problèmes de santé pour aller vers quelque chose de plus... pas rationnel, mais je trouve pas les mots.
Plus terre à terre.
Plus terre à terre, voilà. C'est la richesse de cette émission. Alors, vous voyez, ça réagit déjà au standard, puisque nous avons reçu un SMS de Marie qui dit est-ce que l'auditeur est sous tutelle ?
Ah non, pas du tout, non. Non, non.
Non. D'accord.
Non, je suis pas. Malgré mon âge et malgré mes difficultés là, suite à ces décès, non, je ne suis pas. Je suis responsable de mes actes.
D'accord.
Et le problème, c'est qu'on est en. Je suis en indivision avec mon frère et c'est compliqué. Il me fait une espèce de chantage en disant je veux sortir de l'indivision et tant que tu ne l'acceptes pas, les sous, je les garde. Voilà. Voilà la réalité des choses.
D'accord. Et qui vous a conseillé de porter plainte contre votre frère ?
C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de faire une conciliation. Hein.
Ouais.
Conciliation qui est passée il y a à Agnières. Je suis sur Clichy dans le 92. Hein, qui est passée à Agnières, mais qui n'a obtenu aucun résultat. Puisque il me fait ce chantage de garder les sous. Et alors le problème, c'est que moi, j'aide mes enfants parce qu'il y en a une qui est au chômage. Je lui ai prêté ma voiture pour qu'elle recherche du boulot, celle qui est en Bretagne. Et donc ma situation financière est un peu délicate. J'ai fait de mon mieux avec ces échéanciers, mais comme je n'ai pas reçu certaines convocations, j'ai reçu les résultats a posteriori. Donc je sais pas si c'est un problème de poste, je sais pas si c'est un problème de parce qu'ils ont intérêt aussi à vendre aux enchères les biens immobiliers, compte tenu qu'ils sont sous-évalués. Et donc, y en a certains qui doivent être un peu à l'affût pour acquérir ce genre de biens.
Philippe, est-ce que vous êtes conseillé aujourd'hui ?
Je vais voir une avocate au mois d'août, parce qu'au mois de juillet, elle est... Elle est en vacances. Alors c'est une amie. C'est pas sa spécialité parce que moi je l'ai connue parce que c'est un peu paradoxal, mais c'est comme le cordonnier le plus mal chaussé. J'étais secrétaire général d'une association qui défendait les victimes des banques et des assureurs.
Oui.
Donc moi-même je suis pas avocat, hein. Je travaillais pour un cabinet d'avocats où il y avait sept avocats et qui ne défendaient que les victimes des banques et des assureurs, voilà. Et donc ça n'a rien à voir si c'est toujours une question d'argent. des questions financières, hein, parce
Oui.
qu'on assiste, on est témoin de situations très. Et qui entraînent des conséquences quelquefois similaires à l'auditrice qui est passée juste avant. C'est Sylvie, je crois, qui est
C'est
passée
Sylvie, oui,
avant.
absolument. Alors,
Voilà.
l'équipe de la Libre Antenne, c'est Cindy et Bastien qui répondent, qui sont les premiers filtres. Et en fait, Bastien a trouvé pour vous, parce qu'on se renseigne, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut vous aider, le 39-20, qui est en fait, 36, pardon, le 36-20, et en fait, ça vous permet d'avoir des consultations gratuites
Oui,
par des...
je connais le principe.
Ah,
Bah,
d'accord.
je vais demain.
Merci,
J'y
Bastien.
suis allé avant-hier. Je comptais y retourner aujourd'hui, mais avec la canicule, je ne me voyais pas attendre pendant des heures au tribunal. Donc j'y vais demain
D'accord.
matin. Et effectivement, le problème, c'est que c'est un domaine un peu particulier, les saisies immobilières. Alors je vais voir une avocate qui
D'accord.
s'occupe du droit au logement, du logement.
OK.
Le droit au logement, c'est plutôt concernant les locataires plus que les copropriétaires. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais effectivement, je vois demain matin, enfin, j'espère voir demain
Oui.
matin quelqu'un qui va. Ce que je cherche un peu, j'ai un peu cherché dans la jurisprudence. Hein, je suis pas resté les deux pieds dans le même sabot et voir s'il est possible d'arrêter d'une façon ou d'une autre, s'il y a un vice de forme, un vice de procédure.
Bien sûr.
Alors j'ai des pistes, mais c'est un peu fou quand même. Hein.
Est-ce qu'il y a une
Mais en tout cas,
preuve?
je remercie Florian de cette information que j'aurais pu ne pas avoir. Hein.
Alors, Florian,
Et le
c'est...
palais de justice, je l'ai beaucoup fréquenté parce que j'avais créé à une époque le ministère de la crise de la justice. Je vous parle de ça il y a 30 ans. J'avais d'autres activités, mais dans mes activités associatives, j'avais créé pour dénoncer les dérives de la justice qui se sont amplifiées compte tenu du nombre de moyens, compte
Oui.
tenu de. Enfin, c'est grand n'importe quoi la justice en France. Hein. Je sais qu'il y a pire dans certains pays, mais c'est grand n'importe quoi. Donc, je connais bien le milieu de la justice. Hier, je suis retourné d'ailleurs à l'ancien palais de justice de Paris, là, qui se trouve sur l'île de la Cité, qui n'a rien à voir avec. Je ne sais pas si vous connaissez le nouveau palais, le nouveau tribunal
À Clichy, à
à la
côté de
porte de
chez vous?
Clichy.
Oui.
Ouais, c'est
Oui.
pas. Oui, je suis à une station de métro.
Oui, c'est juste à côté.
C'est un bâtiment qui est froid, c'est un bâtiment qui est mal isolé. Enfin, ils ont fait un peu n'importe quoi. En plus, c'est une énorme tour, donc elle se voit de loin.
De très loin même.
Voilà.
Alors c'est Sébastien hein, qui a trouvé le 36-20 d'ailleurs pour les auditeurs qui nous écoutent. Et d'ailleurs, vous êtes un fidèle auditeur, Philippe, parce que vous nous avez dit Florian. Et effectivement, Florian est avec Olivier Delacroix la semaine. Il est en vacances, puisque
Oui.
voilà, donc c'est effectivement c'est Sébastien hein, qui a trouvé le numéro. Donc le 36-20 pour avoir des consultations gratuites de notaire. J'imagine que vous êtes.
D'avocat.
Et d'avocat aussi, hein, de notaire,
Oui.
enfin en
Ah
tout
oui, notaire, c'est une autre auditrice, oui.
cas. Oui. J'imagine que vous nous avez appelé pour demander justement des conseils auprès des auditeurs, si effectivement certaines personnes peuvent vous aider. C'est sûr qu'on vous mettra en relation avec eux.
Très gentil.
Ben c'est normal. C'est
Ouais.
normal. En tout cas, voilà, c'est pas évident, cette trahison comme ça de votre frère, cette situation dans laquelle vous êtes.
Ben oui, c'est comme un abus de faiblesse. Hein, effectivement, c'est une trahison. C'est une trahison. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé, ça me crève le cœur,
Ah,
mais je
c'est
suis obligé de
terrible.
porter plainte parce que il m'a quand même bloqué 22 000 euros quand même. Hein. Alors, c'est
Aucune
pas une petite
explication de
somme.
sa part, il ne vous a rien dit, même.
Ah ben, c'est parce qu'il veut me coincer en voulant sortir de l'indivision. On est en indivision tous les deux,
Il y a d'autres
immobilière.
moyens, hein. Il y a quand même d'autres
Oui,
moyens que de faire ça,
il y a d'autres moyens, oui.
hein. Bon.
C'est mon frère cadet, de 5 ans ce qui est d'ailleurs assez anecdotique. On est nés tous les deux un 1er octobre, à 5 ans de différence, et à 1 heure de différence. Et on ne se ressemble pas du tout.
Ben,
on est tous les deux du signe de la balance, alors on croit ou on ne croit pas à l'astrologie, mais on ne se ressemble pas du tout.
Il n'y a pas d'équilibre là, manifestement.
Comment ?
La balance, il n'y a pas d'équilibre. Vous savez, c'est le signe...
Oui, c'est ça, un problème. On se cherche. D'ailleurs, c'est étonnant parce que je suis resté longtemps dans le milieu de la justice.
Mmh.
Et c'est le fléau, c'est la balance. Hein.
Mmh.
C'est avec ces deux. Alors, un coup, il va dans un sens, un coup, il va dans l'autre. Hein.
Je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive. J'espère vraiment que vous trouverez une issue positive, hein, pour l'un et pour l'autre. Et, et puis après, ben, ça sera une histoire de famille.
Oui, parce que ça peut aussi se passer mal. Hein, c'est, ou pour lui ou pour moi.
Voilà. Oui, absolument. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous avez raison quand vous dites « je n'ai pas le choix que d'aller porter plainte ». Vous n'avez effectivement pas le choix. C'est-à-dire que même au niveau de ce qu'on va vous conseiller, forcément, la première des choses, ce sera « vous devez porter plainte contre votre frère ». C'est juridiquement une obligation presque. Bon, en tout cas, bon courage, vraiment, Philippe.
Bah, je vous remercie, Sana, et je vous remercie ainsi que Cindy de m'avoir pris à l'antenne. Je trouve que les antennes libres radiophoniques devraient être remboursées par la Sécurité sociale. Parce que c'est comme SOS Amitié, il y a un réseau de solidarité qui permet aux gens de... Voilà, très fort.
Ouais.
Voilà.
Absolument.
Bon, je vous souhaite une bonne continuation, Sana, et je vous remercie encore.
Hein. Bon courage.
Et bonne soirée aux auditeurs et aux éditrices. Hein.
Et Philippe, surtout, donnez-nous de vos nouvelles. Hein. C'est toujours extrêmement intéressant de savoir ce qui se passe après.
D'accord. Entendu.
À bientôt,
merci.
Philippe.
Merci. Allez, au revoir.
Au revoir. Nous accueillons tout de suite Lucie. Bonsoir, Lucie.
Bonsoir, Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive, Lucie ?
Alors, je vous appelle... pour avoir une réponse à mon doute. Je viens d'écouter, on a parlé des psychiatres, des bons et des mauvais.
Oui.
Et ça m'a fait, ça m'a amusé un peu, bien que ça soit très grave ce qu'on a entendu, que des personnes ne respectent pas les autres. J'ai connu ça aussi au cours d'une expertise, quelque chose de très difficile.
Oui.
Et quand je me suis rapatriée chez mon psychiatre à moi,
mm-hmm.
m'a dit un psychiatre ne devrait pas se tenir comme ça et faire des expertises. Alors de ce jour-là, j'ai compris qu'il y en avait des bons et des mauvais et j'ai eu la chance de tomber sur des bons. Alors, je viens vous poser une question.
Mm-hmm.
J'ai fait un travail sur moi-même. Et j'ai au début très fortement une de psychanalyse à trois séances par semaine. Donc si vous voulez, le psychiatre a dû constater que c'était bon pour moi. Et donc l'énergie est arrivée, mais difficilement c'est l'intelligence qui a primé. Et donc ça a déboulé, mais alors j'ai fait une période... J'ai pris 60 kilos en quelques mois, je n'ai plus dormi, je n'ai plus mangé, je ne savais plus qui j'étais,
mmh.
je ne savais plus où j'étais, je ne comprenais plus rien et je me suis terrée. Bon, ça a duré des années, donc je suis retournée en thérapie
oui.
avec le même psychiatre qui m'a dit « vous n'étiez pas prête ». J'ai eu la délicatesse de partir faire une retraite religieuse sans lui en parler. Et donc, il m'a dit, vous n'étiez pas prête, vous auriez dû me le dire, je vous aurais demandé de ne pas le faire. Bon. Mais c'était fait, et les symptômes sont arrivés, c'est-à-dire toutes les forces autodestructrices ont déboulé, et j'ai été vraiment mais très, 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 très mal. Bon.
D'accord.
Alors, je me suis relevée, et là, mon psychiatre prend la retraite.
Ah.
Alors, ça veut dire, il me l'a annoncé à la dernière séance, c'est-à-dire début juin, et je lui ai dit, j'ai pas répondu. Et je lui ai demandé en fin de séance, qu'est-ce que lui en pensait.
Mm-hmm.
Alors, il m'a dit, Il m'a pas répondu. Et il m'a dit, c'est à vous de voir et de le dire. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire, bien que je sente en moi-même, à travers les rêves et à travers le travail que j'ai fait avec lui, que si vous voulez, il va dans le bon sens. C'est-à-dire, j'ai grandi, je ne suis plus une petite fille avec un papa, je me rends compte que je peux gérer ma vie toute seule, avoir ma propre gouvernance, sans être passée par les autres, parce que tout ça, ça correspond à mon enfance.
D'accord.
Donc, je n'ai pas de réponse, et en même temps, j'ai très peur de fonctionner toute seule, parce que mon médecin familial qui me suit aussi, je lui ai posé la même question, il ne m'a pas répondu, il me connaît, et il m'a dit, il m'a regardé en riant, et il m'a dit, vous verrez bien. Donc je ne sais pas où aller, ni à droite, ni à gauche, mais par contre, je sais que les psychiatres, quand ils sont bons, respectueux, bienveillants et à l'écoute, nous sortent d'affaires. Ça, j'en suis absolument certaine.
Et puis, voilà.
J'ai l'audace de vous demander de me guider un peu.
Vous me mettez dans une posture délicate, ma chère Lucie.
Oui. Mais je table sur votre expérience et tout ce que je peux entendre de vous quand vous parlez aux gens, aux conseils que vous leur donnez, et surtout à une écoute du cœur. Quand vous avez dit à la dame tout à l'heure que vous l'écouteriez toute seule après la séance, effectivement, elle est en danger.
Oui.
Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a du cœur, qui a entendu dans le fond du cœur.
Oh, comme vous savez me parler. Oh, comme vous êtes maligne.
Je me permets de vous demander un avis professionnel, peut-être.
Alors,
maintenant, s'il est personnel, pardonnez-moi.
Non, je vous en prie. Alors, en fait, votre question est, dois-je continuer ou pas une thérapie ?
Voilà, parce que je suis encore fragile. Je viens d'être opérée il y a 11 mois et ça s'est très, très mal passé. Ça fait 11 mois que j'ai fait des infections sur infection après l'opération et j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose où je retournais tout contre moi parce que c'est pas normal d'avoir un comportement pareil. Donc j'ai réglé des comptes et ça m'a appris avec beaucoup d'humilité à obéir à la médecine, à écouter, à supporter de retourner voir le chirurgien, etc. Donc si vous voulez, ça a été une crise pour moi difficile parce qu'on se voit coucher sous antibiotiques, c'est dur. Et en même temps, ça m'a donné, un bon coup de bâton.
Moi, j'entends.
Voilà.
Je comprends. Qu'est-ce que vous apportent vos séances ?
La paix et le guidage que je propose, mais qu'on vérifie. Par exemple, je suis très large avec les autres. Je comprends bien ce que ça veut dire. Mais je ne suis pas large pour moi du tout. Et alors, la dernière séance, le psy m'a dit, mais vous savez, Saint-Martin, il a donné la moitié de son manteau, il n'est pas parti que nu, hein. Et alors, vous avez tendance à tout donner. Il faut donner la moitié. Alors, quand je suis sortie de là, j'étais rassurée. Et j'ai dit, dorénavant, je ne donnerai plus d'argent aux autres, je ne partagerai plus comme je le faisais, parce que je partage pour me faire pardonner. Donc, je penserai à moi en premier. Et quand je le dis autour de moi, les personnes qui me connaissent bien me disent « Enfin !»
Oui.
« Enfin, tu trouves une place !»
Bon.
Voilà. Alors, les séances, quand je sors de j'arrive à la séance, j'ose pas y aller, j'ose pas parler, je reste 2 jours sans dormir avant d'y aller. Et puis je me dis, mais il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et quand je sors de là, je suis toute légère. Donc ça me fait du bien.
Oui, c'est une injonction qui vous, effectivement, vous fait du bien, manifestement. Donc,
j'ai du mal à y aller, hein.
C'est comme un peu une séance de sport, ce que vous nous dites. Vous savez, on s'inscrit, on prend un abonnement, et puis finalement, on n'y va plus. Voilà, c'est...
Mais je sais que j'y irai, hein, quand même.
Et pourtant, on se sent bien après une bonne séance.
Voilà, l'angoisse se retourne contre moi.
Ouais.
Mais une angoisse très, très forte, hein, vraiment un malaise, mais épouvantable. Mais je sais que j'y irai, hein.
Bon, donc j'ai envie de vous dire que vous avez déjà rassemblé toutes les pièces du puzzle pour juste me demander, bon ben, Sana finalement...
Un avis.
Oui, mais alors un avis certes, mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, vous avez envie de continuer à y aller. Tout ce que vous nous exprimez là, c'est juste, voilà, Sana, est-ce que vous confirmez que j'ai raison de vouloir y aller? Donc, à partir du moment où ça ne vous fait pas du mal, pourquoi vous en privez?
Oui, mais c'est la morale qui revient derrière. Il faut laisser la place aux autres. Tu en as profité pendant plusieurs années. Tu peux, si les médecins ne te répondent pas, ça veut dire qu'ils attendent que tu sois une grande fille. Et que tu fonctionnes comme tout un chacun, c'est-à-dire être responsable de ses actes, de sa pensée, des relations qu'on a avec les autres.
De gouvernance,
je vise à l'autonomie, si vous voulez. Alors je sais que j'ai pris de l'autonomie.
Oui.
Quand je fais des actes où je pense à moi, mais il y a toujours le doute. J'ai tellement souffert. Quand je voyais plus rien, je comprenais plus rien, je n'avais plus rien, je n'avais même plus aucune envie, aucune. Donc, quand on a connu ça,
c'est pour cela, Lucie,
on a peur. Hein.
Alors justement, c'est pour cela qu'en fait, j'avais comme image, quand vous me parliez, que vous me posiez cette question, j'avais envie de vous dire, moi je ne souhaite pas être cette personne qui vous prend par la main, qui vous infantilise et qui vous dise si, il faut y aller. Non, pas du tout. Je pense,
oui, je comprends.
Voilà,
je
pense vraiment qu'à travers tout ce que vous avez exprimé, c'est déjà très choisi et tranché dans votre esprit sur le fait que quelque part, vous avez besoin et envie de continuer à voir un psy. Le vôtre part à la retraite. Alors déjà, il va falloir en trouver un autre.
C'est une dame.
J'espère qu'elle sera bien.
Et ça m'embête un peu.
Alors voilà. Donc encore une fois, si celle-ci ne vous... Voilà, si ça ne vous convient pas, vous avez la possibilité de changer. Et il faut que ça vienne de vous.
Mmh. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il faut que ce que je pense de moi, il faut que je le vive en vérité. C'est-à-dire, je suis capable de me débrouiller toute seule sans demander l'avis de quelqu'un. Et ça, si vous voulez, j'ai toujours fonctionné comme ça. Est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le droit? Je me suis toujours, toute ma vie, interdit d'occuper une place importante, de diriger les autres. C'était quelque chose où je n'avais pas ma place. Et là, ça veut dire, si tu décides toute seule, c'est que tu as ta place dans la société.
Absolument. Et vous l'aviez déjà, cette place dans la société. Vous êtes présente. Vous êtes une personne unique et vous avez déjà votre place.
Oui, mais je ne l'ai jamais vécu, madame.
Vous ne l'avez jamais vécu, c'est-à-dire que vous n'en avez jamais pris conscience?
Non.
Eh bien, c'est justement le travail que vous pouvez faire à partir de maintenant. C'est de vous donner des petites... Alors, ce n'est pas des... pas des projets, mais un défi ou un challenge ou de vous dire tous les matins, ben voilà, je vais faire ça. Ça va me procurer une sensation agréable. Et c'est
voilà,
moi
de plaisir.
De plaisir. Et c'est moi qui l'aurais initié parce que j'en ai envie.
Oui.
Un objectif. Voilà, je cherchais le terme.
Oui, j'ai entendu hier quand vous avez dit à la personne, vous prenez une feuille de papier et vous notez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ce que vous projetez et le faire d'un côté comme on fait, vous savez, quand on fait le discernement, d'un côté à droite, d'un côté à gauche.
Tout à fait.
Ça positif, ça va bien.
C'est ça.
Et puis c'est vous qui décidez à la fin des colonnes, quoi.
Oui, pour Nana, je lui avais conseillé de devenir la femme de ses rêves.
Oui, la femme de ses rêves.
Voilà,
oui.
Exactement, oui. Lucie.
Oui.
Un grand merci en tout cas de votre confiance. Vraiment, merci à tous pour cette émission qui s'achève malheureusement. Donc on se retrouve ce soir, enfin demain, à 22h pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une douce nuit.